Du temps où avec les copains je gambadais la campagne avec un lance-pierre et qu'on chassait les oiseaux ou les lézards, il arrivait qu'une des lanières de l'engin me pète dans les doigts et ça faisait très mal. C'est un peu comme le boomerang qui revient en pleine figure. Il fallait pas le lancer. Un peu dans le même ordre d'idées, si je vole une bagnole et que je me retrouve dans le panier à salade, je ne pourrais m'en prendre qu'à moi-même. Je continue à lire dans le chapitre 4 de la première épître de Pierre. Qu'aucun de vous n'ait à endurer une punition parce qu'il aurait tué, volé ou comme malfaiteur, ou encore parce qu'il se serait mêlé des affaires d'autrui. Verset 15. Dans le monde antique, le meurtre et le vol étaient des délits graves, et celui qui se rend coupable d'un méfait quelconque ne peut pas se plaindre du châtiment qu'il recevra. Cette règle vaut pour tous ceux qui souffrent comme malfaiteurs, un mot qui inclut tous les délits. Pierre enseigne ici que la persécution n'est pas une excuse pour faire fi de la loi. Il a déjà dit que les croyants ne doivent pas se venger. Il complète cette idée en ajoutant que nul ne doit répondre à la violence verbale ou physique par le meurtre. C'est exactement ce dont Moïse s'était rendu coupable, et il en a pâti pendant 40 ans. Il ne faut pas non plus compenser la confiscation de ses biens par le vol. Peu importe l'exaction, le croyant ne doit pas réagir d'une façon qui le mette hors la loi. Enfin, nul ne doit mettre son nez dans les affaires qui ne le regardent pas. Il est notable que Pierre mette dans le même sac le meurtre et les commérages. Mais, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, cet homme était entier. Pour lui, il n'y avait pas de petite faute. Tous les péchés, qu'on les considère grands ou petits, privent le croyant de la consolation du Saint-Esprit. L'expression « se mêler des affaires d'autrui » n'apparaît qu'ici dans le Nouveau Testament et veut littéralement dire « qui se mêle à des choses étrangères à son appel ». Ce mot désigne un agitateur, un fauteur de troubles. L'apôtre Paul écrit « Nous vous invitons, frères, à faire toujours plus de progrès en mettant votre point d'honneur à vivre dans la paix, à vous occuper chacun de ses propres affaires » et à gagner votre vie par votre propre travail, comme nous vous l'avons déjà recommandé. Or, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée, ils ne travaillent pas et se mêlent des affaires des autres. Nous invitons ces personnes-là à suivre la recommandation suivante. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, travaillez dans la paix et gagnez vous-même votre pain. À lire les Écritures, on est convaincu que les auteurs sacrés voyaient d'un mauvais œil tout activisme politique ou désordre civil. On peut affirmer sans se tromper qu'ils n'auraient jamais participé à une manifestation quelconque. Le fait que Pierre ajoute « fauteur de troubles » à sa liste semble indiquer que dans leur ferveur pour la vérité, certains disciples faisaient de l'excès de zèle et dépassaient les bornes, ce qui leur valait des ennuis avec les autorités. Je continue le texte. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en éprouve aucune honte, qu'il fasse au contraire honneur à Dieu en se montrant digne de ce nom. Verset 16. Il n'y a évidemment aucune honte à souffrir parce qu'on est croyant. Au contraire, ce nom de chrétien devrait être une source de louange à Dieu puisque celui qui le porte participe aux bénédictions du salut et peut s'attendre à l'assistance du Saint-Esprit. Tous les auteurs sacrés enseignent que c'est un honneur et un privilège de souffrir pour le Seigneur. Le mot « chrétien » n'est utilisé que 3 fois dans le Nouveau Testament. Ce n'était pas un titre élogieux, mais plutôt un sobriquet et une insulte que les incrédules lançaient à la figure des croyants. Je continue le texte. « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ?» Verset 17. Auparavant, Pierre a présenté les persécutions comme des épreuves qui authentifient la foi et la raffinent comme l'or dans un creuset. Il reprend cette idée et ajoute que les souffrances sont aussi une sentence disciplinaire qui purifie ceux qui font partie de la maison de Dieu, c'est-à-dire de son peuple. Même les vicissitudes de la vie sont un acte des soins constants et de la grâce de Dieu, bien que du point de vue humain, elles peuvent être pénibles à supporter. Les croyants ne sont pas exempts des mesures disciplinaires divines qui sont soit dues à leur péché, soit pour épurer et raffiner leur foi et leur marche chrétienne. Un autre passage du Nouveau Testament dit « Supportez vos souffrances, elles servent à vous corriger. » C'est en fils que Dieu vous traite. Quel est le fils que son père ne corrige pas? Si les croyants ont besoin de passer par la fournaise d'un jugement, que va-t-il arriver aux incrédules? Les persécutions que Dieu permet, ou plutôt planifie, anticipent le jugement final de toute l'humanité. Cependant, Pierre fait une nette différence entre les persécuteurs et les persécutés. L'apôtre Paul aussi, quand il écrit « Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, mais les jugements du Seigneur ont pour but de nous corriger afin que nous ne soyons pas condamnés avec le reste du monde. » Les jugements des croyants commencent ici-bas et se poursuivent dans l'au-delà. En effet, ils auront à subir une évaluation minutieuse de leur vie sur terre. Ce ne sera pas un examen de passage dans le royaume des cieux puisqu'ils l'ont déjà réussi quand ils ont placé leur confiance en Jésus. Ce sera une scrutation détaillée en vue d'obtenir ou pas certaines récompenses, un peu comme quand à la suite d'un examen, on reçoit un accessit, une appréciation ou les félicitations du jury. Paul écrit « Nous aurons tous à comparaître devant le tribunal du Christ et chacun recevra ce qui lui revient selon les actes, bons ou mauvais, qu'il aura accomplis par son corps. » Je continue le texte. « Et si le juste est sauvé difficilement, que deviendra celui qui est impie et pécheur ?» Verset 18. Pierre cite un proverbe selon l'ancienne version grecque. Le juste est sauvé difficilement à cause des exigences de Dieu. En d'autres mots, les croyants s'en tirent à peine. Chacun d'eux est comme une braise retirée du feu. Nul ne pénètre dans le royaume des cieux sur un tapis rouge par le grand portail de devant, mais en rampant à plat ventre par la petite porte de derrière. Les croyants persécutés n'entreront dans le royaume qu'après être passés par le feu de la purification divine. Jésus a prévenu ses disciples que, comme lui, ils auraient des tribulations dans ce monde, qu'ils seraient persécutés et même mis à mort. Le Seigneur a souffert depuis sa naissance, car il était immergé dans un monde pécheur et parce qu'il s'est placé sous la malédiction de Dieu afin de porter les péchés de tous les hommes, de tous les temps. C'est à grand-peine que Jésus a racheté l'humanité et c'est avec beaucoup de difficultés que les croyants persévèrent jusqu'à la gloire finale. Alors comment peut-on penser que l'impie qui n'a jamais souffert pour la justice s'éteindra doucement dans la paix et qu'il trouvera bien une petite place dans un coin de paradis, puisque Dieu n'est jamais qu'un gros cœur qui vibre et pardonne? Au contraire, l'apôtre Paul écrit « Ici se laisse voir le juste jugement de Dieu qui désire vous trouver digne de son royaume pour lequel vous souffrez. » En effet, il est juste aux yeux de Dieu de rendre la souffrance à ceux qui vous font souffrir et de vous accorder à vous qui souffrez du repos avec nous. Cela se produira lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du haut du ciel avec ses anges puissants et dans une flamme. Ce jour-là, il punira comme il le mérite ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et de sa puissance glorieuse. » Fin de citation. Je finis le chapitre 4. Ainsi, ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant le bien. Verset 19. Le mot « ainsi » confronte le lecteur à son devoir de faire confiance au Seigneur alors qu'il se trouve dans une situation dramatique et douloureuse. Les lecteurs de Pierre pouvaient avoir la certitude qu'ils avaient été appelés à souffrir selon la volonté de Dieu puisqu'ils étaient persécutés à cause du nom de Jésus. Ils peuvent aussi compter sur le réconfort du Saint-Esprit. Tout comme Jésus remettait sa cause entre les mains du juste juge, le croyant qui est dans la fournaise des persécutions doit confier sa plus grande possession, c'est-à-dire son âme, en la remettant au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Le mot pour « remettant » fait partie du jargon bancaire de l'époque et veut dire « déposer, confier de l'argent à quelqu'un » ou à une institution financière. Jésus a utilisé le même mot sur la croix quand il a dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Pierre désire que ses lecteurs gardent à l'esprit que c'est au fidèle Créateur qu'ils confient leur âme. C'est ici la seule fois dans le Nouveau Testament que Dieu est appelé Créateur. Le Tout-Puissant, qui est l'architecte de tout ce qui existe, accomplit les objectifs qu'il a prédéterminés. Il sait ce qu'il fait et est donc entièrement digne de confiance. Tous les croyants qui sont passés par la souffrance savent ce que c'est que de remettre son âme à Dieu. Quand l'apôtre Paul a placé sa confiance en Jésus, il a tout remis entre ses mains. Il écrit « Moi, circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant au zèle persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Fin de citation. Et quand Paul moisit dans une prison attendant d'être exécuté, il dit « Je n'ai pas honte de mes souffrances présentes, car je sais en qui j'ai mis ma confiance, et j'ai la ferme conviction qu'il est assez puissant pour garder tout ce que je lui ai confié jusqu'au jour du jugement. » Peut-être possédez-vous des documents importants et des objets de valeur que vous avez déposés à la banque dans un coffre. Quand vous allez vous endormir, vous n'y pensez pas et ça ne vous tient pas en souci parce que vos biens sont en sécurité. Quand je dors ou que je suis engagé dans une activité quelconque, je ne pense pas à mon âme parce que j'ai déjà fait le nécessaire. Peut-être que je mourrai paisiblement dans mon sommeil, ou violemment dans un accident d'avion, ou soudainement d'une embolie pulmonaire. Je n'en ai aucune idée. Mais comme j'ai déjà fait tous les préparatifs pour l'au-delà, et que mes valises sont bouclées, pour ainsi dire, je suis prêt à partir à tout instant, et je n'ai pas d'inquiétude à ce sujet. Comme l'apôtre Paul, je peux dire « Je sais en qui j'ai mis ma confiance et j'ai la ferme conviction qu'il s'occupe de tout. » Certaines publicités vous encouragent à préparer votre retraite afin que vous puissiez passer la dernière partie de votre vie dans le confort. Oui, mais et après? D'autres pubs essayent de vous vendre d'avance vos funérailles et d'en préparer les moindres détails. Vous pouvez choisir le cercueil dernier cri habillé de soie, le lieu de votre dernière demeure, l'urne qui contiendra vos cendres ou la pierre tombale qui ornera le lieu où reposera votre dépouille avec une inscription de préférence en latin parce que ça en jette. Vous pouvez aussi préparer tous les détails de la cérémonie écrire le discours du prêtre et choisir le requiem qui haussera le sérieux de l'occasion. C'est ainsi que votre départ de ce monde se fera en grande pompe et qu'on se souviendra combien vous étiez apprécié de tous ceux qui ont eu l'immense privilège de vous connaître. Cette vanité me fait sourire, mais en fait elle est pitoyable, parce que selon cette optique, le trou dans le cimetière ou les cendres dans l'urne signifie la fin des fins. Grossière erreur, car après la retraite et après l'enterrement, il y a encore un autre après. Dans le Nouveau Testament, on lit « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après vient le jugement. » Voilà le rendez-vous pour lequel il faut se préparer. Nous arrivons au chapitre 5 de cette première épître de Pierre, où l'apôtre énumère de nouvelles responsabilités à l'intérieur de l'Église dans le contexte difficile des persécutions présentes et à venir. Pierre va commencer par dire aux responsables d'Église comment agir avec les croyants qu'il assimile à un troupeau de brebis. Ce n'est pas par hasard qu'il fait ce rapprochement, car les comportements de la brebis ou du mouton et de l'homme ont bien des points semblables. En effet, les brebis sont tout à fait incapables de prendre soin d'elles-mêmes. Plus que tout autre type d'animal, elles demandent une attention constante. Les animaux disposent d'un instinct, une sorte de boussole biologique d'une grande efficacité qui leur permet de retrouver leur chemin. Mais quand une brebis s'égare, ce qui ne manque jamais d'arriver, elle n'a aucun sens de l'orientation qui lui permettrait de retrouver son enclos et de rejoindre le troupeau. Elle est perdue pour de bon. D'ailleurs, Jésus a illustré cette vérité avec la parabole du berger qui possède 100 brebis et qui en perd une. Les brebis dépendent entièrement de leur berger pour les guider, nourrir, protéger et pour les sauver du danger. Les brebis passent le plus clair de leur temps à brouter, mais quand elles s'égarent, elles ne peuvent pas trouver la nourriture et l'eau dont elles ont besoin. Elles vont dévorer n'importe quoi sans faire la différence entre des plantes comestibles et toxiques. Et puis, elles sont de nature délicate. Il faut que leur eau soit à la bonne température, propre, claire et tranquille. Dans un psaume, le roi David écrit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me mène pas à pas sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi, ta houlette me conduit et ton bâton me protège. » Fin de citation. Ce n'est pas tout. La brebis est incapable de se nettoyer. Sa peau sécrète une grande quantité de suinte, un produit gras qui se mélange à la laine et sur lequel vient se coller la poussière, l'herbe et tous les débris qui traînent. Les accumulations de saleté sous leur queue peuvent les empêcher de faire leurs besoins, ce qui menace leur vie. Elles ont donc besoin d'être brossées de temps en temps afin de les soulager de toute la saleté qui se colle à leur peau. Comme les brebis ne sont pas agressives et qu'elles ne sont pas équipées pour se battre, elles ne disposent d'aucune défense face à un prédateur, sinon la fuite, mais elles sont tellement lentes que c'est un jeu d'enfant pour le carnassier de la rattraper et de la dévorer. C'est ce qui est arrivé à la chèvre de M. Seguin, une poésie que j'ai dû apprendre par cœur. Attaqué, le seul salut des brebis est le berger qui veille et lui porte secours. C'est ce que faisait David quand il gardait les troupeaux. Il a dit que quand il gardait les moutons de son père et qu'un lion ou même un ours survenait pour emporter une bête du troupeau, je courais après lui, je l'attaquais et j'arrachais la bête de sa gueule. Et si le fauve se dressait contre moi, je le prenais par son poil et je le frappais jusqu'à ce qu'il soit mort. Un prophète compare l'humanité perdue à des brebis égarées. Il écrit « Nous étions tous errants, pareils à des brebis, Chacun de nous allait par son propre chemin. Il n'est pas non plus étonnant que Jésus ait comparé les foules désorientées, confuses et spirituellement égarées à des brebis. Le texte dit « En voyant les foules, il fut pris de pitié pour elles, car ces gens étaient inquiets et abattus comme des brebis sans berger. » Quand Jésus descendit de la barque, il vit une foule nombreuse. Il fut pris de pitié pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à enseigner longuement. Pour les gens du premier siècle qui vivaient essentiellement de l'agriculture et de l'élevage, les images qui évoquaient les brebis, les moutons et les bergers leur étaient familières. Pour cette raison, Pierre appelle les croyants le troupeau de Dieu et ordonne aux responsables d'église d'être des pasteurs qui s'occupent de lui. Car tout comme les brebis, les croyants ont tendance à s'égarer, à se couvrir de saleté, de péché. Ils sont naïfs, sans défense, et donc facilement vulnérables quand ils s'égarent de leur troupeau. Voilà pourquoi ils ont besoin de l'assistance de pasteurs fidèles. Quand Pierre écrit ces lignes, l'Église affrontait déjà des persécutions. Et comme celles-ci allaient devenir de plus en plus sévères, le troupeau en proie à ces violentes attaques était encore plus vulnérable, ce qui nécessitait une très grande attention de la part de bergers forts, consacrés et capables de guider les brebis dans la tourmente.